Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle. Retour à l'abbaye d'Aubrive ce dimanche, où il reste encore une semaine pour aller admirer les œuvres du peintre et dessinateur symboliste Alfred Koubine. S'il est souvent classé dans la catégorie des peintres autrichiens, il n'en reste pas moins que Koubine, comme son nom l'indique, est originaire des pays tchèques, et plus précisément de Litoměřice, Litoměřice en allemand, où il est né en 1877. Moins connu que ses contemporains expressionnistes Schiele et Klimt, il commence cependant à être redécouvert et son œuvre à être appréciée à sa juste valeur, celle d'un des plus grands artistes symbolistes du début du XXe siècle. Après une première exposition à Paris en 2007, c'est au tour du centre d'art de l'abbaye d'Auberive en Haute-Marne de lui rendre hommage et de confronter la richesse de son travail à celui d'artistes contemporains. Christian Norbergen est le commissaire de l'exposition et son initiateur avec Alexia Volo, que nous avons déjà entendu il y a quelques semaines. Il nous explique comment il a découvert l'œuvre de Koubine dont il est devenu spécialiste.
J'ai passé un troisième cycle d'histoire de l'art et il était centré en grande partie sur Koubine et un peu son alter ego, le belge Spiliart. Donc ça fait donc fort longtemps que je suis passionné de Koubine et j'ai déjà donné plusieurs conférences sur Alfred Koubine. Et donc quand j'ai eu l'occasion et l'opportunité de proposer une exposition sur Koubine, eh bien, c'était une passion qui se concrétisait.
Alors, il y a déjà eu une exposition en 2007 à Paris, au musée d'art moderne de la ville de Paris. On a l'impression qu'il y a un espèce de regain d'intérêt pour Alfred Koubine quand même ces dernières années, en tout cas pour cette forme de symbolisme autrichien, surtout pour la peinture pour la peinture autrichienne.
Oui, il y a une très lente montée en puissance. Ça a commencé par l'expressionnisme autrichien et allemand, et sur cette lancée, au-delà des deux, trois très connus en France, genre Egon Schiele, Kokoschka ou Klimt, et bien petit à petit, il y a une montée en puissance d'autres artistes, et en particulier Koubine. Et il est clair que l'exposition de Paris de 2007, d'ailleurs Dominique Gagneux, qui était conservatrice et qui organisait l'expo, a écrit dans le catalogue là, de l'expo que j'ai organisée à Aubrive.
Et nos auditeurs la connaissent puisque, en effet, à l'époque, déjà, elle nous avait fait le plaisir de nous en parler. Alors, l'œuvre d'Alfred Koubine, quand même, reste quand même largement, je pense, à découvrir et à faire découvrir au grand public.
Absolument, oui.
En quelques mots, par exemple, juste comme ça, en introduction, comment est-ce que vous présenteriez l'œuvre d'Alfred Koubine à quelqu'un qui ne la connaît pas?
Eh bien, quelqu'un qui ne la connaîtrait pas. Je dirais que Koubine est le plus formidable créateur de dessins du début du siècle. Et je dirais aussi qu'il est le plus pillé de tous les créateurs de dessins par des dessinateurs plus jeunes et plus contemporains. Quand on écoute un peu des dessinateurs français, belges ou anglais, à l'exposition d'Aubrive, j'ai invité un anglais, il est fanatique de Koubine, j'ai invité un belge, Camille Detay, qui est fanatique de Koubine. Topor, par exemple, qui est une grosse pointure du dessin français, Topor a quasiment... Enfin, disons qu'il a bien utilisé Koubine et je reste mesuré. Donc Koubine est le créateur de dessin qui a le plus influencé dans tout le XXe siècle les autres créateurs de dessin. Souvent cité comme source par Gourmelin, par Topor, par de très nombreux autres. Et ainsi, c'est un dessinateur qui a influencé tous les autres est forcément quelqu'un d'une extrême importance, même si le grand public ne le connaît pas encore assez.
Vous insistez justement sur le fait que c'est un dessinateur, c'est un point important à ce niveau-là. Est-ce que justement le fait que c'était un dessinateur et pas uniquement un peintre. Explique un peu peut-être le désintérêt qu'il a pu susciter pendant quelques années, en tout cas pour le large public. Vous dites en effet des artistes s'en sont inspirés, mais disons que le large public ne le savait pas.
Il est clair que le dessin est un peu en retrait par rapport à la peinture avec un grand P, le grand art avec un grand A. Il n'empêche que durant la crise que connaît la création picturale depuis une dizaine d'années avec le financial art, le dessin qui est peut-être plus pur et plus authentique monte en puissance. Et donc inévitablement Kubin, puisqu'on le retrouve tôt ou tard quasiment dans toute l'Europe.
Et puis on peut faire peut-être un parallèle aussi, je sais pas, avec la BD par exemple, qui est quand même le réceptacle du dessin d'une certaine manière, enfin l'incarnation qui met en valeur justement le dessin. Est-ce que lui-même par exemple a influencé des dessinateurs de BD par exemple? Je pense aux dessinateurs de BD fantastiques par exemple.
Oui, il a une grosse influence sur des gens comme Philippe Druillet par exemple, qui a longtemps été une tête de proue de la bande dessinée française. Cela dit, je suis pas tout à fait de votre avis. Il me semble que Kubin plonge sa source dans l'art le plus profond, celui de Goya, celui d'Ensor, de Félicien Rops. Et donc, son influence sur la bande dessinée, sans doute, mais la bande dessinée est globalement plus populaire, plus grand public. Elle a peut-être un peu moins de racines, alors qu'au contraire, Kubin, lui, plonge son dessin et sa peinture, c'est-à-dire que c'est un dessin peint dans les sources les plus profondes de l'âme, du mental et de l'imaginaire littéraire aussi fantastique européen, ce qui n'est pas toujours le cas de la bande dessinée.
Puisque vous citez justement d'autres artistes, peut-on dire d'une certaine façon que Kubin s'inscrit dans une lignée d'artistes de Jérôme Bosch à Böcklin par exemple?
Kubin est dans cette continuité de Goya, Félicien Rops, Ensor, Böcklin et quelques autres. Il est de ce niveau, il est de cette taille, et il est dans cette continuité également. Il est aussi le précurseur du surréalisme. Il est plus surréaliste, Kubin, surtout dans ses grandes années entre 1900 et 1910. Il est plus surréaliste, il est plus plongé dans l'inconscient que ceux qui vont suivre dans les années 20.
Est-ce que les surréalistes, justement, ont connu son œuvre et...
Non, les surréalistes l'ont très peu connu. C'est tout à fait étonnant dans l'histoire de l'art. En même temps, les surréalistes étaient plutôt centrés sur le sud de l'Europe, sur la France et le sud. Et à l'époque, il y avait une telle tension politique militaire entre l'Europe de l'Ouest et puis l'Allemagne et l'Autriche, qu'il y a eu comme une sorte de barrage. Et ce barrage, il n'y a pas si longtemps qu'il se lève. Et c'est pour ça qu'on est en train de découvrir quelqu'un comme Kubin et qu'il a fallu beaucoup de temps pour découvrir Schiele et Klee.
Vous parliez tout à l'heure justement d'une certaine manière d'un pic de création, vous disiez 1910. Est-ce qu'on pourrait un petit peu distinguer des périodes de création chez Kubin ou il y a une continuité?
Alors à mon sens, c'est pas le seul mais c'est pas le plus important, la grande création de Kubin c'est plutôt entre 1900 et 1910 quand il est relativement jeune, avant, quand il est à Munich et ensuite quand il s'installe en Autriche. Et là les chefs-d'œuvre de Kubin sont à la fois extrêmement nombreux et d'une force absolument prodigieuse. Après, j'ai l'impression que Kubin se répète un peu. En disant cela, je vais faire un petit peu de mal aux Kubiniens dont je fais partie. Mais Kubin se répète un peu et sa grande création et l'exposition d'Aubrive est surtout centrée sur les chefs-d'œuvre du début. Ensuite, Kubin, peut-être qu'il s'est légèrement assagi, que son tracé a, à mon sens, perdu en force. Mais les chefs-d'œuvre sont dans cette décade-là.
Quel lien entretenait-il avec les artistes de son époque? Est-ce qu'il a été en contact?
Il avait une correspondance extrêmement importante. Il recevait relativement beaucoup. Et il était incroyablement apprécié de très grands noms de la peinture. Je vais citer deux noms. C'est assez étonnant d'entendre ces deux noms-là. Paul Klee et Kandinsky étaient fanatiques de Kubin. Ils ont contribué à le faire connaître. Kubin était un peu secret, un peu discret, beaucoup de gravures, beaucoup d'illustrations. Il n'empêche que c'est les deux que je viens de citer, qui sont parmi les grands noms de la peinture du XXe siècle, étaient très admiratifs de Kubin, le tenaient pour un grand maître, et c'est tout à fait étonnant de citer ces deux-là comme admirateurs de Kubin.
C'est intéressant parce que Alfred Kubin est un peu l'enfant de son siècle, en tout cas de sa fin de siècle, et aussi d'une région très particulière. Pour moi, c'est vraiment un artiste de la Middle Europa.
Oui, il y a un ancrage humain dans ce cœur, mais en même temps, il y a aussi, c'est peut-être ça qui fait le génie de Kubin, il y a l'ancrage dans ce cœur de la Middle Europa, mais il y a aussi une ouverture sur l'inconscient collectif, sur les grands mythes, sur l'angoisse qui pointe dans tout le XXe siècle, et il allie une sorte de centre qui lui donne une densité extrême, et en même temps, il y a une ouverture chez Kubin à d'autres éléments, y compris en particulier littéraires, qui fait qu'il y a une ampleur de création chez Kubin tout à fait inégalée dans le siècle.
Quand vous dites une ouverture sur les œuvres littéraires, vous pouvez préciser ?
Kubin a été un grand illustrateur. Kubin était fanatique de tous les grands textes fantastiques européens, en particulier du 19e siècle. Il a beaucoup illustré et c'est sa première strate de création, un imaginaire littéraire. Qui fait que quand il dessine, il se contente pas de mettre en scène graphiquement ceci ou cela. Il y a aussi une source littéraire qui lui donne des échos, qui lui donne une source peut-être plus importante encore que s'il n'y avait qu'une base graphique. Ou Edgar Poe, par exemple, ou Strindberg.
Juste pour terminer, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose? Est-ce que vous estimez qu'on peut encore rajouter quelque chose, voilà, pour cette fin d'interview?
Je crois que Kubin est l'artiste qui plonge le plus dans l'inconscient, bien plus que ne le font ensuite les surréalistes qui font dans l'inconscient. Alors que chez Kubin, il y a une authenticité, il y a un affleurement de l'inconscient, une simplification de son tracé qui lui donne une puissance extrêmement rare dans le siècle.